Bonsoir. Patrice, avec vous, en attendant la belle Irène qui, eh bien, je sais pas, elle est peut-être gelée, peut-être qu'elle est figée dans la glace. Non, il n'y a pas encore de glace, mais on ne sait jamais. Elle va arriver, de toute façon, vous inquiétez pas. Et ce soir, donc, on va parler, pour commencer, de Zamenhof. Comme je l'ai dit dans la liste de diffusion que je vous envoie par Internet, je vous ai posé une question. Est-ce que vous savez que ce soir, le 15 décembre, c'est l'anniversaire de Zamenhof, et je vous ai demandé, mais Zamenhof, vous savez qui c'est, bien sûr. Zamenhof, eh bien écoutez, on va en parler avec trois invités qui vont se présenter parce que j'ai oublié de prendre les prénoms avant de lancer l'émission. Ça, c'est un grand défaut que j'ai. Alors, à ma droite, à ma droite à moi. Bonjour. Alors, vous, votre prénom, c'est
Marcel.
Marcel, ce sera plus simple comme ça. Ensuite,
Moi, c'est Pierre.
Pierre, c'est une voix, et Marcel aussi. Mais surtout Pierre, c'est une voix qu'on a déjà entendue il n'y a pas longtemps, hein, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel.
Marcel aussi, nous
Marcel
étions
aussi. Vous
ensemble.
étiez venu pour nous parler des folles journées de l'environnement,
Du
c'était ça?
développement
Voilà,
durable, oui.
c'est ça. Et puis donc, le troisième invité.
Moi, c'est Axel.
Bonsoir Axel.
Bonsoir.
Alors, messieurs, dames, si vous êtes ce soir ici dans nos studios, c'est pour nous parler de Zamenhof et de l'anniversaire de Zamenhof. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cet illustre personnage, eh bien, qui était Zamenhof?
Alors pour commencer, Zamenhof est né en 1859. Donc aujourd'hui, il aurait 150 ans
Oui.
et c'est le créateur de quelque chose de fabuleux. C'est l'espéranto.
L'espéranto, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de Zamenhof rapidement sur sa vie? Il était de quelle origine, de quel pays? Je crois que c'était polonais, c'est
Ben,
ça?
ça dépend, ça se discute en fonction des
Oui.
opinions politiques,
Ah,
puisque
d'accord.
la majorité de sa vie, il l'a passé dans des villes qui sont actuellement politiquement en Pologne, mais comme
Oui.
à l'époque la Pologne n'existait pas et faisait partie de l'Empire russe,
D'accord.
c'est difficile de dire qu'il était polonais.
D'accord. Enfin donc, mais qu'est-ce qu'il y est? Comment? Bon, maintenant, on sait que c'est Zamenhof qui est le créateur de l'espéranto.
Oui.
Mais alors, comment c'est arrivé? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui l'a amené à créer cette langue et comment ça s'est passé?
Eh bien, comme l'a dit Pierre, la situation politique de la Pologne à cette époque-là était assez complexe. Il y avait effectivement des gens qui parlaient le polonais, il y avait des gens qui parlaient le russe, il y avait des gens qui parlaient l'allemand, et chacun vivait un peu dans sa communauté. Alors Zamenhof est juif et il parlait le yiddish chez lui. Donc il y avait aussi une communauté juive dans la ville où il était. Et il voyait bien que, il y avait plusieurs communautés différentes qui parlaient chacun sa langue, qui ne se comprenaient pas, qui ne faisaient rien pour se comprendre et qui étaient vraiment en opposition. Et donc le rêve de Zamenhof, c'est d'avoir une langue commune qui permette aux différents peuples de se comprendre et de s'apprécier.
D'accord, donc voilà donc pour un petit peu les tout débuts de cette langue de l'espéranto. Pourquoi ce nom?
Ce nom est celui qu'il avait choisi comme pseudonyme pour son premier livre.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y pensait depuis sa jeunesse, quand il était enfant, étudiant, mais les choses mettent longtemps à mûrir. Et finalement, c'est quand il a été médecin diplômé, qu'il était quand même adulte, il avait une trentaine d'années, qu'il a pu publier son livre, mais il ne l'a pas signé Zamenhof, peut-être pour ne pas interférer avec son métier de médecin. Il l'a signé Doctoro Esperanto, c'est-à-dire le docteur qui espère, parce qu'il espérait que ça allait avoir un certain succès. Et ensuite, on a désigné la langue par le pseudonyme de l'auteur, Esperanto.
D'accord. Donc voilà comment ça a commencé, tout ça. Ça a commencé tout simplement. Dites-moi un petit peu, essayons de se mettre dans la peau de Zamenhof. Essayer de créer une nouvelle langue à cette époque-là, avec toutes les difficultés, puisqu'on l'a expliqué il y a quelques instants, les pays qui n'étaient pas vraiment formés, enfin du moins c'était un peu confus, c'était pas un grand défi.
Oui, mais je pense que c'était à la fois un grand défi, mais le fait d'être plongé dans un milieu avec beaucoup de langues qui s'embrouillaient les unes dans les autres, c'était aussi une motivation plus forte.
D'accord.
Quelqu'un qui aurait vécu dans un pays où tout le monde parlait la même langue n'aurait pas eu la même motivation.
D'accord, je comprends. Mais écoutez, ce que je vous propose pour commencer donc cette émission, eh ben, on va écouter de l'espéranto avec quelqu'un que je connais bien, qui est de ma région natale, qui est du nord de la France, qui est de Dunkerque, mais je ne savais pas qu'il chantait en espéranto. Il s'agit de Jacques Ivar, qui va nous interpréter une chanson de, bien connue de Georges Brassens, « Les amoureux des bancs publics ». On va écouter ça tout de suite. Comment ça se dit en espéranto, alors ?
Verdabank. Mais c'est-à-dire qu'en fait, comme toujours, quand on fait une traduction,
oui.
Il faut adapter pour que la musique sonne avec les rimes. Et on ne peut pas faire facilement une traduction directe.
D'accord. Bon, on écoute ça tout de suite et puis on retrouve tous nos invités avec Irène qui est arrivée dans les studios.
Multae homoi credas que la verdae bencoi de boulevarda trottoir servas por riposa charm au simple por ornam. Sed ne estas tiel char ilia chef bon far estas al juna bar doni locon por la varmo de comenzam. Al giamanto chiui sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne esorgante pril silenta blend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank, cun zumaru prisia passi ien iras mia simpati pril tappeto sur la murca e varmo de secure estonte en tranquil ili cun babila siam dum manon tenas man. Ili revas prive spera in placcia atmosfer cae lau plenova stil ili iam electas nomon por nascoda fil. Al giamanto chiui sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne esorgante pril silenta blend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank, cun zumado prisia passi ien iras mia simpati. Ciam pia famili ecvidas cun envitia in friponoin du ci alili jetas nur paroloin cun venen. Tamen tiu bigotar fil filin cae la par spirito cae tiel plu shatus foie en secur frandati tion mem. Al giamanto giui sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne esorgante pril silenta blend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank, cun zumado prisi appassi ien iras mia simpati. La monatoi passos fordo repazzigio scorca i rev del luna veng dum cielon eg vualos pesai nuboiam. Iri tiam vidos che hazarde sur are sur tia fama bank ili vivis la plei bonan parton de la am. Al giamanto chiu sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne esorgante pril silenta blend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank, cun zumado prisia passi ien iras mia simpati.
Dans Arcafou, et cette fois-ci, je vous l'avais promis, Irène est arrivée, elle n'est pas seule. Bonsoir Irène.
Bonsoir, et puis...
Tu nous as ramené encore un invité.
Voilà, bonsoir à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir, un peu en retard pour des raisons professionnelles.
C'est pas grave, tu es pardonné.
Je sais que vous me pardonnez. Et oui, parce qu'en chemin, j'ai rencontré Jean-Paul Tognot, qui est le président d'Espéranto Loiret.
Ah ben ça tombe bien alors.
Bonsoir Jean-Paul.
Bonsoir.
Mais j'ai vu que tu avais très bien assuré pour le lancement de cette émission voilà. Sur cette langue incroyable
oui.
Qui s'appelle l'espéranto.
Alors on connaît maintenant Zamenhof, on le connaît un peu mieux, on sait de quelle origine, à quel endroit il est situé à peu près. On sait aussi pourquoi il a essayé d'inventer cette langue. Et la dernière question que je posais avant cette pause musicale, cette première pause musicale en espéranto, c'était est-ce que
tu lui as demandé en espéranto ?
Non.
Toi, tu parles espéranto ?
Non. Pas encore, mais ça va venir. Ce que je voulais savoir, si c'était pas vraiment un défi un peu impossible. D'essayer d'inventer une telle langue à cette époque-là. Et puis il m'a été répondu bien que non, justement, c'est parce qu'il était situé à une sorte de confluence de plusieurs langues et les gens avaient du mal à se comprendre et qu'il a essayé de créer quelque chose pour que les gens puissent se comprendre plus facilement. Et derrière ça, il y avait une autre idée certainement plus noble encore, c'était la fraternité, la solidarité, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est ça ?
Oui.
Voilà.
Oui. C'est, disons... Il avait vraiment envie d'unir l'humanité, en particulier par le moyen de la langue, mais sa philosophie allait bien au-delà. Il voulait une fraternité universelle, en gros.
Et donc l'espéranto était la langue du monde, alors ?
Il était espéranto, que l'espéranto soit la langue du monde, effectivement. Pas une langue qui serait imposée à chacun, disons, ça serait pas la langue unique, mais ça serait la langue de partage, pour que justement des peuples différents qui existent et qui ont tout à fait le droit d'exister puissent quand même parler entre eux sur un pied d'égalité.
C'est-à-dire tout le monde aurait une langue commune en plus de sa langue prioritaire. Enfin, c'est un peu comme l'anglais à l'heure actuelle, que finalement tout le monde parle plus ou moins.
La petite différence avec l'anglais, c'est que c'est déjà la langue
d'un pays, de plusieurs pays.
Et en fait, quand vous avez un Américain et un Français qui discutent entre eux, c'est un peu l'Américain qui va imposer
sa langue.
Donc, si vous avez eu l'occasion de débattre d'un sujet qui vous tient à cœur en anglais, avec un anglais, avec quelques mots qui vous manquent, et de voir votre interlocuteur parler très facilement sa langue maternelle, c'est extrêmement frustrant parce qu'on voit clairement qu'on n'est pas sur un pied d'égalité.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on comprend toujours mieux l'anglais des Espagnols, des Italiens, des Allemands que l'anglais des Anglais ou des Américains.
Tout à fait, oui.
Ils ont la même démarche que nous par rapport à la langue parce qu'elle est étrangère pour eux aussi.
Là, pour le coup, effectivement, s'il n'y avait pas les Anglais... la langue anglaise serait une langue démocratique qui mettrait les gens sur un pied d'égalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Mais alors, ça doit être une sacrée aventure que d'inventer une langue.
Oui, et son but aussi, c'était une langue simple et facile. Ce qui n'est pas le cas de l'anglais, par exemple. Ni du français, ni de l'allemand, ni de l'arabe.
Ni d'aucune langue. Je crois que toutes les langues ont leurs difficultés.
Un point caractéristique, c'est que quand il a publié son idée de langue, il a commencé par forcément publier son idée dans une langue donnée, une langue qui existait déjà. Donc il se trouve que le premier livre a été en russe, mais très rapidement il a fait aussi la version en allemand, en français, en polonais, pour que les gens puissent en parler. Et donc, dans ce livre, qui faisait juste une cinquantaine de pages en tout, il commençait par y avoir une bonne trentaine de pages de considérations générales sur quels étaient les problèmes de langue, quelle avait été sa démarche, pourquoi il avait voulu faire une langue, comment il avait voulu faire une langue, etc. Et puis finalement, les explications techniques sur la langue, ça tient en cinq pages.
Bon, c'est-à-dire